Bonjour, bonjour, je suis ravi de te retrouver pour la suite de notre série sur l'évolution de la vie, des premières bactéries jusqu'à l'humain d'aujourd'hui, avec comme toile de fond d'essayer de comprendre le fonctionnement de nos systèmes internes. Ceci pour que tu puisses mieux appréhender les diverses problématiques qui peuvent survenir dans ta vie, aussi bien sur des problèmes de mouvement contrôlé, de ton corps, bouger tes bras, ta tête, pouvoir te déplacer aisément et librement, que sur des soucis d'ordre plus organique, donc sur système digestif, des choses sur lesquelles on a un peu moins de contrôle, je dirais, bien que ça se discute. Donc, bienvenue dans mon univers au sein duquel j'essaye de toujours mieux comprendre le système humain et comment nous pouvons agir dessus pour nourrir ce système évolutif et ainsi optimiser au mieux nos organismes. Dans ces podcasts, j'aborde le côté très physique du corps, matérialiste, je dirais, en y incorporant aussi les notions d'émotion. Et évidemment, le mental, alors tout ce qui est cortex cérébral et tout ça. Et c'est un peu par choix que je laisse de côté les aspects plus énergétiques, même si tu verras à la toute fin, je te proposerai un petit exercice. Ces aspects énergétiques qui sont, alors je ne parle pas de thermorégulation, de ce genre d'énergie, mais plus d'une énergie beaucoup moins palpable, qui sont abordés par les arts. Par exemple, les arts énergétiques du taoïsme, la médecine traditionnelle chinoise et des aspects qui sont aussi évidemment étudiés par d'autres traditions à travers cette planète. Lors du dernier épisode de cette série sur l'évolution, je t'ai quitté avec l'émergence des cnidaires et donc des méduses. Donc les méduses qui font partie de cette famille des cnidaires. Je vais donc continuer à partir de là. Et nous allons avancer dans le temps. Juste pour en terminer avec nos amis les méduses, et petit clin d'œil à ceux qui n'aiment pas du tout ces organismes, il est à noter qu'elles ont en quelque sorte donné naissance à une autre branche dans l'évolution. Faut savoir que souvent une branche, aussi, donc ici par exemple les cnidaires, des cnidaires va apparaître une famille que l'on va étudier aujourd'hui, que l'on appelait les prévertébrés, et ça a aussi donné une autre branche d'une autre famille qui a complètement évolué différemment. Et cette autre, alors ici on l'a, les scientifiques l'ont appelé, c'est le sous-groupe des cnidaires qui comprend les coraux et les anémones de mer. Ils se sont séparés des autres cnidaires, donc il y a environ 500 millions d'années, et en fait, ils ont développé des formes beaucoup plus sédentaires. Je te rappelle qu'une méduse, ça se déplace. Et juste pour ta culture générale, faut savoir que les méduses que l'on rencontre aujourd'hui sont apparues à cette même époque, donc il y a 500 millions d'années. Voilà, ça en fait des êtres assez vieux. Poursuivons dans l'évolution. Évolution qui, comme souvent, a pris de très 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 longues années pour accoucher d'une nouvelle forme de vie. Ainsi, comme je le disais juste précédemment, à partir des cnidaires, la vie, sur cette planète en tout cas, a vu l'émergence de ce que nous, les humains et les scientifiques qui étudient ça, avons appelé donc les prévertébrés. Sur l'échelle du temps, nous nous situons à quelques 540 millions d'années. Voilà, c'est loin. Et même si cette branche ne semble plus exister aujourd'hui, les prévertébrés, donc qui sont au final des êtres préhistoriques, font partie d'une des étapes importantes, voire la plus importante, pour notre évolution. Car c'est à partir d'eux que les prémices de la colonne vertébrale sont arrivées. Et donc, tu vas peut-être le deviner, surtout avec le nom de prévertébrés, l'apparition plus tard des vertébrés. Alors, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations, en tout cas d'images, sur ces organismes. Je te mets toutefois une image que j'ai, une photo que j'ai récupérée sur Internet. Et je te mets cette photo sur le groupe donc Telegram dédié à ces podcasts pour ceux que ça intéresse. Et donc on peut voir cette image et se rendre compte que c'est un organisme entre le ver et le serpent. C'est une sorte de minuscule anguille qui a été nommée conodonte. Tu verras sur le groupe Telegram, je te mets la façon dont ça s'écrit. Ces organismes avaient un corps allongé avec une organisation segmentée, ainsi que des structures rudimentaires pouvant évoluer vers un système nerveux et une notochorde. Arrêtons-nous ici que je puisse t'expliquer ce que je viens d'évoquer en deux, trois phrases. Commençons par le système nerveux. Si tu te souviens un peu de ce que je t'ai partagé quand j'ai parlé des méduses, nous avons vu que des cellules nerveuses étaient déjà présentes, avec un tout début d'organisation assez basale, j'ai appelé ça comme ça, afin de permettre à ces êtres, donc les méduses, de s'orienter vers de la nourriture. Or, je t'invite à réécouter ou à l'écouter le podcast en question, si tu t'en souviens pas ou si tu n'as pas écouté, je ne vais pas revenir là-dessus ici. À ce titre, j'avais donc pu facilement hypothéquer que la capacité de s'alimenter est dépendante de la capacité à capter certains signaux externes qui, en simplifiant mon propos, vont permettre de générer un mouvement vers la nourriture. C'est ce qu'on a vu dans le podcast précédent. C'est certes très primaire au niveau nerveux, c'est néanmoins non négligeable. Tu vas voir pourquoi. Et donc, toi, moi, nous pouvons supputer que les prévertébrés ont hérité de ce système primaire, ce qui semblerait logique, puisque cela a apporté un bénéfice à l'espèce. Voilà, il faut se resituer dans un système évolutif. Ce qui est bénéfique est conservé et souvent amélioré. Ce qui ne l'est pas disparaît. C'est comme des organismes qui, s'ils ne sont pas suffisamment adaptés à leur environnement, finissent par disparaître. Et on considère que, à juste titre, qu'il y a eu beaucoup plus d'êtres vivants qui ont fini par disparaître par manque d'adaptabilité que de ce qui a pu rester sur un certain laps de temps assez long, en fait. Voilà. Alors, je te fais patienter un peu car tu verras que donc nos conodontes ont développé des trucs super importants. Alors, avant ça, c'est quoi une notochorde? Bon, franchement, j'ai hésité, mais je ne peux pas faire l'impasse sur la définition de l'Académie de médecine. Je te donne simplement et seulement la première phrase et je vais essayer de t'expliquer l'importance de ce processus. Avant que je te donne la définition, sache que cette définition donc, est plus axée sur l'humain. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, la définition. Ouvrez les guillemets. Colonne mésoblastique formée sur la ligne médiane chez l'embryon à la troisième semaine par invagination au niveau d'une primitive de cellules épiblastiques qui migrent en direction crâniale jusqu'à la plaque précordale entre la gouttière neurale et l'entoblaste. Fermez les guillemets. Alors, la définition continue sur 3-4 phrases du même style, je te les passe. Voilà, c'est assez technique, mais n'empêche, je trouve ça joli, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, déjà, sache que la notochorde est une caractéristique évolutive fondamentale. Alors, juste une petite aparté, il est fort possible que tu entends de la pluie qui tombe. Voilà, et pluie que l'on a attendu parce que ça commençait à être très sec ici. Voilà, petite aparté de ce qui se passe en direct quand on enregistre sans studio. Donc, je reprends ma petite phrase. Donc, la notochorde est une caractéristique évolutive fondamentale et qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des vertébrés. On la retrouve, cette notochorde, aussi bien chez certains organismes, notamment ce que l'on a appelé les chordés. Et donc, comme tu l'as peut-être entendu là, dans la définition de l'Académie de médecine, on retrouve cette notochorde chez nous quand on est embryon. Et après, elle disparaît, elle se transforme en fait. En langage simple, la notochorde est une tige flexible et rigide qui s'étend le long de l'axe dorsal du corps des organismes qui la possèdent. Elle est généralement située en dessous du système nerveux central, parallèlement à la colonne vertébrale chez les vertébrés ultérieurs. Chez certains, elle va plus ou moins rester, et chez d'autres, elle va se transformer, comme je le dis, en suivant. Cette notochorde a plusieurs fonctions. Elle fournit, entre autres, un soutien structurel à l'organisme en maintenant sa forme et en lui donnant une certaine rigidité. Elle aide également à résister à la compression exercée sur le corps, notamment lors des mouvements. Aussi, cette notochorde induit la formation de structures anatomiques. Pendant le développement embryonnaire, donc ce qu'on retrouve dans la définition que je t'ai donnée un peu plus tôt, la notochorde joue un rôle clé dans l'induction et la mise en place de structures anatomiques importantes. Par exemple, elle est impliquée dans la formation de la colonne vertébrale chez la plupart des vertébrés ultérieurs. Elle sécrète des signaux moléculaires qui influencent le développement des tissus environnants. Donc, elle a quand même bien sa place et une très grande influence et importance dans l'évolution. Et aussi, elle est un support pour le système nerveux. Par exemple, chez les chordés, donc notre branche, le système nerveux central se forme en partie au-dessus de la notochorde. Elle aide ainsi à fournir un support physique et spatial pour le développement du système nerveux et des organes sensoriels associés. Tu veux, elle va se développer le long et autour de cette notochorde. Chez les organismes non vertébrés, tels que les lancettes, qui sont des chordés primitifs, la notochorde reste telle qu'elle, donc ce que je te disais un peu plus tôt. En revanche, donc chez les vertébrés, cette notochorde est remplacée, et c'est ce qui nous importe pour nous, par une colonne vertébrale qui persiste dans... cette notochorde va néanmoins persister dans certaines régions du corps, comme par exemple au niveau du noyau pulpeux des disques invertébraux. Donc voilà, on va pouvoir la retrouver dans les espaces intervertébraux, pour faire simple. Et tu vas voir que c'est là que ça devient super intéressant, même si ce que j'ai bien déjà évoqué avant est méga important dans la compréhension de notre évolution. Au fil du temps de leur existence, les organismes prévertébrés ont subi des changements anatomiques importants. C'est la base de notre sujet à travers ces podcasts. Hein. Entre autres, donc les organismes prévertébrés ont développé donc une notochorde plus rigide. Dans leur évolution, en fait, voilà, on peut s'imaginer qu'ils ont commencé à apparaître avec une notochorde plutôt fluide, non rigide, on va dire, qui s'est rigidifiée au fil du temps et de leur propre évolution. Donc une notochorde plus rigide, une structure, on l'a vu, qui fournissait un support et qui s'est finalement transformée plus tard en colonne vertébrale chez les vertébrés ultérieurs. Je me répète un petit peu. Hein. De plus, ils ont développé donc ces organismes prévertébrés un système nerveux plus complexe, avec, écoute bien, des ganglions nerveux qui sont devenus la base du système nerveux central des futurs vertébrés. Donc on y est. L'apparition du système nerveux, de sa complexification en tout cas. Le développement de la colonne vertébrale et du système nerveux vont de pair, car le système osseux, donc via la colonne vertébrale, vient protéger le système nerveux qui est somme toute très fragile. En effet, Si celui-ci, donc le système nerveux, venait à se rompre, à être écrasé d'une manière ou d'une autre, c'est la survie de l'organisme qui est mise à mal et qui est surtout en jeu et en danger. Donc, on comprend, tu peux comprendre que ces organes se sont développés ensemble. Je le développe un petit peu plus loin. De plus, les organismes prévertébrés ont également développé, ici aussi encore une fois, écoute bien, des organes sensoriels plus sophistiqués, tels que les yeux, voilà, l'apparition des yeux, et aussi les organes vestibulaires pour l'équilibre et la détection de la gravité. Ils ont, donc nos organes prévertébrés, évolué pour avoir des structures appendiculaires, comme les nageoires et les membres, certains membres, qui leur ont permis d'explorer et de se déplacer dans leur environnement de manière plus efficace. Malheureusement, avec les quelques fossiles qui ont été retrouvés à ce jour, les chercheurs ne sont pas en capacité de savoir quelle acuité visuelle avaient les prévertébrés. En effet, ils avaient des yeux, mais bon, voilà, au niveau des systèmes nerveux et des éléments très fragiles comme ça, dans le temps, ça finit par disparaître. Ce que l'on en sait, c'est que les yeux étaient en position latérale, donc plutôt sur les côtés des prévertébrés, et ne servaient donc pas pour la prédation, parce que quand c'est trop sur les côtés, en fait, ça permet pas d'être efficace. En revanche, peut-être plus qu'il servait pour repérer d'éventuels prédateurs pour le déplacement. Ayant acquis la capacité de se mouvoir plus facilement grâce à l'apparition de nageoires et de membres. Et donc, il est fort probable que, comme pour le système nerveux et la colonne vertébrale, les yeux et les membres soient apparus concomitamment. Voilà. C'est ce que je te disais juste un petit peu avant entre colonne vertébrale et système nerveux, c'est-à-dire que l'un et l'autre, au final, apparaissent ensemble. On peut peut-être imaginer que certains prévertébrés, certaines familles de prévertébrés, ont développé un système nerveux sans développer de colonne vertébrale. Ils n'ont pas duré très longtemps dans le temps, donc ils ont fini par disparaître assez rapidement, et que l'évolution a fait que d'autres familles de prévertébrés ont développé un système nerveux avec un début de colonne vertébrale pour protéger ce système nerveux. Et là, c'est pareil, on peut s'imaginer que un système vestibulaire, des yeux et des structures appendiculaires pour le mouvement sont apparus, ont pu apparaître indépendamment les uns des autres. Ça a peut-être pas été très très fonctionnel au début. Donc encore une fois, une petite famille de prévertébrés a pu développer ça et disparaître parce que c'était pas fonctionnel. Et au bout d'un certain temps, les yeux, les organes vestibulaires et les nageoires sont apparus, en même temps, en quelque sorte, sur un même être, un même organisme prévertébré, et ça lui a permis de gagner en efficience et donc de perdurer dans un certain temps, en tout cas, de l'évolution. Voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Alors, je vais pas avancer plus loin dans l'évolution, parce qu'il y a déjà énormément d'informations à retirer de tout ça, informations qui sont fondamentales et qui sont le cœur même de l'évolution, en tout cas de ce que je recherche à mettre en avant et à comprendre. Comme je l'ai déjà évoqué lors d'un précédent épisode, ce n'est pas l'organe qui crée la fonction, c'est la nécessité de combler un besoin qui est présent, qui va créer l'organe. Il est vraiment important que tu comprennes cette phrase, que c'est pas les yeux qui ont créé la vue. C'est une nécessité de pouvoir mieux appréhender son espace, son environnement, qui a fait que petit à petit est apparue la vision et à travers la vision, les yeux. Ce qui est notable d'observer au point de l'évolution où on en est, c'est que plus les organismes ont grossi et par là même ont eu besoin de plus de nourriture pour construire leur être, pour nourrir leurs cellules, plus leur capacité de déplacement s'est développée en devenant aussi plus efficace. Et tu vas comprendre avec ce que je vais évoquer en suivant. Lorsque j'ai étudié la neurologie fonctionnelle chez l'humain, j'ai appris que des organes des sens, les yeux sont les principaux pourvoyeurs, ou plutôt, faudrait dire, récepteurs sensoriels, à hauteur d'environ 70% des afférences. Les afférences, ce sont les informations captées par nos organes des sens et qui nous donnent donc des informations sur notre environnement plus ou moins proche. Donc, sur l'ensemble de nos récepteurs sensoriels, hein, donc on en a au moins 5, voire on en considère même 6 en neurologie fonctionnelle, voire peut-être même plus. Les yeux sont le récepteur principal, hein, avec, donc, comme je te le dis, quasiment 3/4 des informations qui arrivent par les yeux. Et donc, ça semble au final assez logique que les yeux aient cette grande capacité à recevoir autant d'informations quand on voit qu'ils sont apparus au final assez tôt dans l'évolution. Et ce qui permet aussi de comprendre pourquoi les yeux sont très importants aussi pour notre équilibre, car dans ce temps d'évolution sont aussi apparus les organes vestibulaires. Je l'ai évoqué juste avant. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est et à quoi ça sert les organes vestibulaires, comme on le connaît chez nous les humains en tout cas. Donc les organes vestibulaires servent à gérer ton équilibre chez tous les organismes dans un espace à 3 dimensions. Chez nous les humains, tu les retrouves au niveau de l'oreille interne. Ce sont eux qui sont par exemple déréglés ou déboussolés quand tu as le mal des transports, le mal de mer. En neurologie fonctionnelle, on sait qu'une des façons de régler ce problème de mal des transports va être de travailler sur les yeux, en stimulant certains nerfs crâniens et les muscles oculaires. Ce qui, une fois de plus, trouve tout son sens quand tu regardes la phylogenèse. Je tiens quand même à préciser ici que l'exemple que je viens de donner et la résolution très simplifiée sont donc de très grosses simplifications. Car, en général, tu viens travailler sur d'autres zones du cerveau, tu viens travailler aussi sur les organes vestibulaires par des mouvements. Enfin voilà, c'était juste pour illustrer mon propos. C'est tout de même un petit peu plus complexe que ça. En guise de conclusion pour cette tranche d'évolution, et ça fait déjà un petit moment que je cause, je pensais que ce serait plus court, néanmoins c'est tellement passionnant que voilà, je peux pas couper là-dedans. Donc en guise de conclusion, tu peux observer plusieurs facteurs essentiels qui en fait jalonnent tout le principe évolutif. Plus les organismes vont grossir, ce qui veut dire contenir plus de cellules qu'un être plus petit, plus une organisation interne apparaît en gagnant de plus en plus en efficience afin de répondre à ce besoin fondamental de s'alimenter. Et plus tu seras précis dans tes déplacements, en sachant entre autres t'équilibrer dans l'espace à l'intérieur duquel tu évolues, plus tu auras de chances d'échapper à d'éventuels prédateurs et d'attraper aussi plus de proies. Je reviendrai sur cette époque lors d'un prochain podcast où j'aborderai ces points d'évolution sous le regard du décodage biologique. Car des phénomènes en embryologie, en embryogenèse, comme on dit, je crois, et en énergie sont apparus à ce moment de l'évolution. Donc. J'y reviendrai dans un certain temps, parce que j'ai besoin de temps pour approfondir ma pensée et vérifier les idées qui me sont venues. Ce que je peux te dire et proposer déjà, c'est ce petit exercice que je t'ai teasé au tout début, c'est de penser à cette évolution en visualisant ton souffle qui se déploie dans ta colonne vertébrale, en partant sur l'inspire depuis l'espace entre la troisième et deuxième lombaire. Et imagine, donc toujours sur l'inspire, que ton souffle s'expanse vers le haut, le long de ta et à l'intérieur de ta colonne vertébrale, jusque dans tes yeux. Et à l'expire, tu peux imaginer ce souffle qui part dans tous tes membres, dans tout ton corps, et juste reconsidérer tout ça sur ce chemin qu'a emprunté la vie en évoluant. Allez, je te laisse avec ça, et souviens-toi, le mouvement, c'est la vie. Allez, ciao, ciao.